et TV5 Monde vous présentent Afrique Presse.
Hassan Diop.
Bienvenue à tous, Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Ousmane Ndiaye, TV5 Monde, Francis Lalupo, Africa numéro 1. Et puis Hichem Benaïch, New African Magazine. Deux sujets au menu, le Congo-Brazzaville et le général Jean-Marie Michel Mokoko, jugé pour atteinte à la sécurité de l'État. Les défenseurs de l'opposant dénoncent un procès politique. Et puis le Mozambique. Et la mort de l'opposant Afonso Dhlakama, l'ancien chef rebelle de la RENAMO, qui n'avait jamais vraiment enterré la hache de guerre. D'abord, le Congo-Brazzaville, et ce procès du général Mokoko, jugé depuis lundi pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Il est derrière les barreaux depuis 2 ans. Ancien haut gradé, ex-chef d'état-major, le général Mokoko, naguère membre du Sérail au pouvoir au Congo-Brazzaville, s'est donc hasardé sur le tard en politique, puisqu'il s'est opposé seulement en 2016 à la dernière élection présidentielle à Denis Sassou Nguesso, et apparemment ça lui vaut aujourd'hui, en tout cas disent les partisans de Mokoko, ce procès qualifié de procès politique par les défenseurs de Mokoko. Alors la première journée d'audience, donc ce lundi, peut se résumer d'une part par le silence de l'accusé, d'autre part par les journalistes effectivement qui ont été expulsés de la salle d'audience, Ousmane Ndiaye. Enfin, les journalistes non officiels qui n'appartiennent pas aux médias nationaux. Voilà.
Qui est sous la botte et la férule du régime. En tout cas, s'il y a une cohérence au Congo, il y a une cohérence du régime, c'est cette façon toujours de faire les choses dans une forme d'omerta. N'oublions pas que l'élection qui est le nœud du contentieux a été faite dans des conditions absolument scandaleuses. Pas de journalistes, on a coupé Internet, coupé le téléphone. De toute façon, dans un pays...
À la suite d'une constitution controversée.
Oui, et puis bon, n'oublions pas quand même qu'on est dans un pays... Pour moi, le contexte du procès est très important pour comprendre toutes les conditions d'iniquité sont réunies. En tout cas, de façon politique ou géopolitique. On est en face d'un régime qui a quand même pris le pouvoir... deux fois par la force ou par les armes. On est en face d'un président réélu alors que l'esprit et la loi de sa constitution l'en empêchaient. Il l'a transgressé. Peu importe les conditions, mais il l'a transgressé sans consensus politique véritable. On est dans un pays qui truque ses comptes, qui truque l'argent public de ses propres citoyens d'après les FMI. Comment on peut croire en un seul instant en un procès libre, démocratique? Comment?
Alors, sur la crédibilité du procès, Francis Lalupo, le principal objet d'accusation, c'est une vidéo donc dans laquelle apparaît Jean-Marie Michel Mokoko. Et rappelons aussi que ses co-accusés, il y en a 6, eux sont absents de l'audience,
oui,
sont jugés par contumace.
Des co-accusés dont certains d'ailleurs déclarent qu'ils n'ont jamais rencontré le général Mokoko. Alors, c'est quand même extraordinaire parce que, en fait, s'il s'agit de cette vidéo a été, réalisée, une première fois, il y a 10 ans déjà.
Avec un contenu.
Il y a 10 ans déjà, avec ce contenu où on suppose que le général Mokoko envisageait de perpétrer un coup d'État contre Denis Sassou Nguesso. Sauf que, entre-temps, ce même général Mokoko est devenu le conseiller du président Denis Sassou Nguesso et même le représentant du Congo auprès de l'Union africaine et notamment en Centrafrique. Donc on peut imaginer qu'entre-temps, l'affaire était d'une certaine manière réglée en famille, comme cela se fait de temps en temps. 8 ans plus tard, le général Mokoko décide de devenir, de se porter candidat à la présidentielle. Délit majeur, manifestement, puisque ses ennuis ont commencé à partir de ce moment-là. Et il n'est pas le seul, d'ailleurs, candidat à être aujourd'hui embastillé. Et tous ceux qui sont embastillés pour avoir été candidat à la présidence de la République sont accusés des mêmes chefs, je dirais, c'est-à-dire atteinte à la sécurité intérieure de l'État et détention d'armes illégales. Mmh. Alors, il y a deux choses. Alors, s'il s'agit de juger le général Mokoko sur la base de cette vidéo, ça serait quand même difficile de dire, voilà, finalement, il y a une sorte de remontée de mémoire comme ça, soudaine, je dirais, du président Denis Sassou Nguesso et de la justice, pour juger quelque chose qui semblait avoir été résolu entre-temps. Mais le procès est très confus, parce que quand on suit le procès, on se demande finalement si c'est cette vidéo qui est évoquée en tant que élément probant d'accusation, ou alors s'il y a des faits qui ont été commis au moment de la présidentielle, puisqu'il s'agit de juger également une détention
d'armes de guerre et de munitions.
Détention illégale. Les 16 armes ont été exhibées pendant le procès. Il y a même un expert qui a été convoqué, qui a été invité à la barre pour déterminer la nature de ces armes, leur portée et éventuellement la capacité de nuisance, la capacité létale. Alors, tout ça est évidemment très confus. Il y a des personnes qui ont été citées pendant le procès.
Tout ça pour dire que voilà. Ce procès ne tient pas sur
alors,
des...
Alors, le procès ne tient pas. Alors, s'il s'agit d'une atteinte à la sécurité intérieure de l'État, la question est de savoir, et le procès devrait le dire, quand a été commise cette atteinte à la sécurité intérieure de l'État? Deuxièmement, la détention d'armes illégales. Où ces armes ont-elles été récupérées? Puisque une première perquisition n'a pas permis de trouver des armes dans le domicile de monsieur le général Mokoko. Et une deuxième perquisition, l'absence du prévenu aurait permis de récupérer quand même un arsenal absolument impressionnant. Alors, la grande difficulté de pour ce tribunal, c'est qu'il est difficile et terrible de juger un prévenu silencieux. Et ce silence va peser très lourd dans le verdict et pèsera lourd dans les annales de la justice congolaise et aussi de la vie politique congolaise.
Alors, Jean-Marie Michel Mokoko est arrivé troisième lors de la présidentielle de 2016 contre Denis Sassou Nguesso. Il constitue véritablement une menace politique pour ce chef d'État qui a du mal à quitter le pouvoir depuis maintenant plus de 35 ans, non, ou davantage.
Presque. Je crois que... Non, mais moi,
Jean-Marie Michel Mokoko est une menace pour Denis Sassou Nguesso.
Je pense que c'est comme si la boîte à outils du régime décidait de s'opposer au régime. Je pense que c'est un militaire, connaît très bien l'armée.
Originaire du Nord,
avec une carrière en tout cas sur le papier brillantissime à l'international comme au Congo. Donc oui, je pense qu'à l'évidence, oui, son profil inquiète et inquiétant pour le régime. Après, la vraie question, c'est
en quoi son profil serait inquiétant? Parce qu'il est brillant, parce qu'il aurait pu faire de l'ombre à Denis Sassou Nguesso?
Non, mais parce qu'il a une base politique, certainement pour arriver troisième. Il a une base au niveau international. Je pense qu'il a une légitimité en tant que soldat. Il a une légitimité en tant que diplomate. Et je pense qu'il en sait beaucoup sur la façon dont le régime fonctionne. C'est toujours compliqué d'avoir des opposants qui sont issus de la matrice, qui connaissent les pratiques politiques, qui connaissent les faiblesses. Donc je pense qu'en ça, il est redoutable, parce que c'est pas un opposant historique qui est éloigné du pouvoir. Ce qui peut aussi constituer une faiblesse pour lui aussi. Hein. Oui, mais je pense que c'est un véritable danger. Encore à supposer que... dans ce pays-là, il est possible d'avoir une libre expression de l'opposition.
Alors justement, vous avez parlé d'appui, peut-être pas d'appui, mais une influence extérieure de Jean-Marie Michel Mokoko. Certains de ses détracteurs, notamment du côté du pouvoir, voient dans ses ambitions politiques qu'il a eues la main de la France, puisque la plupart des co-accusés de l'ex-général dans ce dossier sont des Français.
Sont des Français, notamment certains Bernard Descaux, qui a été cité lors du procès et qui a envoyé une lettre immédiatement d'ailleurs pour démentir tout lien avec le général Mokoko qu'il n'a jamais rencontré.
Et est-ce qu'il avait l'appui de Paris, Jean-Marie Michel?
Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il avait un appui particulier de Paris. Il avait certainement un réseau d'amitié, aussi bien au Gabon qu'en France.
Pas forcément un appui politique.
Il n'y avait pas d'appui politique. D'ailleurs, je pense que sa candidature a été, disons, c'était une candidature de dernière minute, de certaine manière. Oui. Hein, il faut quand même le préciser. Et en fait, à l'arrivée, il aura commis, enfin du point de vue en tout cas du pouvoir, un double délit, c'est-à-dire de s'être présenté, compte tenu évidemment des éléments que Ousmane vient de rappeler, c'est-à-dire ses liens particuliers avec le régime, le fait qu'il vienne évidemment de l'intérieur du régime, le fait qu'il appartienne aussi à une région évidemment où Denis Sassou Nguesso est censé être le seul représentant, je dirais, de cette de cette région, en tout cas de cette partie du Congo.
Enfin, un membre de la famille qui a trahi, en gros.
Double délit, le fait de s'être présenté. Alors, on peut évidemment prendre un raccourci en plan de crime de lèse-majesté. Et autre délit, c'est le fait de n'avoir pas reconnu, de n'avoir pas accepté de reconnaître la victoire, supposée de Denis Sassou Nguesso. Voilà. Et ça a été fortement souligné, évidemment, par les partisans du régime. Pour l'opposition, le général Mokoko est le véritable vainqueur de cette élection de mars 2016.
Absolument. Alors, la ligne de défense du général Mokoko paraît tout de même assez légère, c'est plus sur la forme. Il dit que, en tant que dignitaire de la République, il ne pouvait être poursuivi ou même arrêté sans l'aval des ordres nationaux. C'est quand même un peu mince.
En tout cas, il y a une dramaturgie dans cette affaire-là, c'est-à-dire qu'on joue sur les symboles.
Je pense qu'il faut aussi préciser quand même une chose, c'est que ce procès est arrivé plus tôt que prévu, plus tôt qu'on l'attendait.
Absolument. Alors, je pense et à la surprise générale, d'ailleurs.
Alors, il faut qu'on souligne ici, je pense que vous y pensez tous, quand même, je dirais, l'ombre portée du FMI. Mmh. Parce que, en ce moment, le Congo est absolument en négociation avec le FMI. Oui. Et un des éléments pris en compte dans ces négociations, c'est la situation politique
la
dans
situation
le pays.
Politique notamment, à aussi.
Voilà, notamment, la situation sécuritaire dans le Pool, hein, la guerre qui ne dit pas son nom dans la région du Pool.
Tout ça qui découle de la dernière présidence.
Et puis, il y a eu donc cette accélération, je dirais, des procès à Mokoko pour, d'une certaine manière, donner le change au FMI et indiquer au FMI qu'on est en train de solder, en quelque sorte, les comptes restés non soldés de cette présidentielle de mars 2016.
Voilà, Hichem, dernier mot.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le pouvoir doit avoir une position crédible en termes de déçu de ce procès, parce que soit il va rebondir et se sortir par la justice dit qu'il n'a pas, il y a faute de preuves, on les libère et c'est un moyen de communiquer.
Après deux ans de détention préventive,
oui,
on en doute.
Ou alors le condamner et à ce moment-là le libérer plus tard et puis adouber le fils qui, on le sent déjà, il a un pas sur la
rançon. Oui.
Bah, ce qui est étonnant, c'est que fils vient de faire un livre
intitulé Ce que je crois.
Oui, c'est ça.
Voilà. Là, vous parlez du fils de Denis Sassou Nguesso.
Oui, qui sort un livre.
Denis Christel, voilà, qui veut apparaître comme le chevalier blanc du futur Congo Brazzaville, sans doute après son papa, si tant est qu'il lui succède au pouvoir. Voilà, RFI TV 5 Monde, le deuxième sujet d'Afrique Presse cette semaine, la mort de l'ex-chef rebelle et opposant mozambicain, Afonso Dhlakama, Ousmane Diaye, indomptable, obstiné, incapable de s'adapter à l'ère du temps, depuis la fin notamment de la guerre froide, depuis celle de l'apartheid. Afonso Dhlakama est mort à l'âge de 65 ans. La rébellion anticommuniste de la RENAMO a beau avoir signé un accord de paix avec le Frelimo au pouvoir au Mozambique, accord de paix qui date de 1992 sous l'égide de Sant'Egidio. Eh bien, Afonso Dhlakama était, semble-t-il, toujours comme un homme, toujours en guerre. Il appelait toujours un peu à la rébellion, à la sédition, à reprendre les armes, et ça jusqu'au bout.
Oui, c'est la tragédie de ces leaders de l'indépendance qui pensent, parce qu'ils ont pris les armes pour libérer leur peuple, ont droit de vie et de mort sur leur peuple. Et dans la même catégorie de ces figures historiques, je pense que c'est... on peut inscrire son collègue angolais, Jonas Savimbi, qui est mort, les armes à la main. On peut inscrire aussi Mugabe, qui jusqu'au bout, parce que j'ai été libérateur de mon peuple, oui,
Sauf qu'il y avait plus d'ambiguïté chez Dhlakama. Il s'est battu pour l'indépendance, encore qu'il était plutôt même très lié aux colonisateurs, c'est-à-dire il ne s'est jamais vraiment frontalement battu contre l'occupant et le colonisateur portugais.
On peut faire la même comparaison avec Savimbi. Ils ont un truc en commun, l'anticommunisme presque primaire, presque bête. Bête dans le sens
opportuniste
où,
aussi.
Ou même si ça ne sert plus leur peuple, parce que tous les deux ont quand même pactisé avec le diable, le régime de l'apartheid, soutenu, armé par le régime de l'apartheid, contre leur propre peuple. Pour moi, face à ça, tout l'héroïsme, toute cette mythologie de l'héroïsme de l'indépendance éclate. À un moment donné, il faudra aussi qu'on fasse une sorte de droit d'inventaire de ces légendes, de ces fictions qui ont été inventées autour de ces leaders politiques. Et l'héritage politique est là, quand vous regardez cette façon de la mise en scène, ce langage qui est à contre-courant du langage politique, c'est-à-dire ils sont à contre-sens de l'histoire, c'est-à-dire ils gouvernent les pays les plus jeunes du monde, qui ont le langage, qui ont une autre façon de faire de la politique, avec des méthodes sorties d'un autre temps.
C'est vrai que Dhlakama, Hichem, était effectivement, il était l'allié de Ian Smith à l'époque de la Rhodésie, qui deviendra ensuite le pays de Mugabe, et puis il a fricoté aussi avec le régime de l'apartheid à l'époque. Enfin bref, tout ça au nom d'un anticommunisme, ça paraît tout de même surréaliste. Quoi, avec
il faut revenir à la matrice de base. Cette région a été marquée terriblement par la guerre froide et par les idéologies. Oui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des phénomènes de ce type, des dinosaures d'un autre temps et une vision du monde est totalement antagonique, absolument dépassée. Et je pense que moi, j'ai visité le Mozambique, c'est un pays attachant, pays riche, population pauvre, mais on est frappé par les enjeux et ce pays va avoir des enjeux considérables pour les années à venir,
d'ailleurs, y compris économique. Francis, alors cette figure cette figure dépassée, si j'ose dire.
Oui, l'essentiel était dit. Hein, je parlais tout à l'heure d'une opposition vintage. C'est une opposition d'un autre âge. Mmh. C'est le prolongement en fait d'une époque révolue. Cette confrontation entre le Frelimo et la Renamo, qui a duré quand même, faut le dire, une quarantaine d'années,
hein, c'est ça, jusqu'en 92, et, oui.
Était quand même, je dirais, issu du schéma de la guerre froide. C'est-à-dire un Frelimo qui était marxiste, communiste, qui l'assumait en tant que tel, et un Renamo qui combattait évidemment le communisme.
De la CIA,
comme Mobutu. Mobutu était soutenu dans son pays parce qu'il était, je dirais, le combattant, enfin disons, le représentant de l'anticommunisme dans cette région. On a parlé aussi du schéma angolais, hein, entre le MPLA et l'UNITA. Mais en réalité, Alfonso de la Cama, sa grande difficulté, c'est de ne pas être devenu un dirigeant politique. Parce que cet accord qui a été signé en 1992 aurait dû mettre fin à cette confrontation.
Absolument.
Qu'il faut quand même le rappeler, cette guerre civile aura fait 1 million de morts dans ce pays.
Oui.
C'est énorme.
Oui.
Et de la Cama n'était pas, je dirais, un enfant de cœur, si je puis dire. C'était quand même considéré, il était considéré par certains comme un grand criminel, un criminel de masse.
Sanguinaire.
Hein. Voilà.
Sanguinaire.
Donc l'accord a été signé à Rome en 92. Ce n'est pas un hasard, puisqu'en 92, c'était la fin de la guerre froide, la fin des blocs, Est et Ouest, et c'était la fin de l'apartheid. Donc il y avait, je dirais, une sorte de révision des positionnements politiques qui s'opéraient à ce moment-là, un peu partout dans le monde, y compris sur le continent africain. Ensuite, il s'inscrit dans le schéma politique traditionnel. La Renamo devient un parti politique, disons, traditionnel, classique. Malheureusement, de la Cama enchaîne les échecs électoraux au fil des années. D'élection en élection, il perd toutes les élections. Et il décide en 2013 de reprendre les armes et de redevenir le rebelle qu'il est resté. En réalité, c'est une histoire pathétique, l'histoire de la Cama. C'est un rebelle, c'est plutôt un guerriero éternel qui n'est jamais devenu un dirigeant politique.
Il n'a jamais déposé les armes. Alors, est-ce que la mort de la Cama, d'Afonso de la Cama, Ousmane Diaye, signifie enfin que la Renamo pourra prétendre à ce rôle de parti de l'opposition au Mozambique, finalement, rôle qui pourrait peut-être...
Moi, je suis assez sceptique. Oui. Je suis assez sceptique parce que je ne pense pas qu'il y ait un héritage ou un ancrage idéologique fort à l'époque de la guerre froide. Je pense qu'un Alfonso de la Cama est plus le produit d'une sorte de manipulation des services, des blocs. Il n'existait, je pense, qu'à mon avis, juste parce qu'à l'époque, enfin, il y avait du soutien derrière, il y avait des armes. Il est fondamental et intéressant de constater que, à la fois, comme pour l'UNITA, comme pour la Renamo, dès que l'URSS est tombée, enfin, ils ont perdu la guerre.
C'est ça.
Immédiatement. Donc, je pense qu'après, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus de projet. Comme il n'y avait plus de projet politique, comme il n'y avait pas un destin commun, hormis l'ingérence internationale, il n'existe plus. Tous ces mouvements armés n'ont pas su se positionner politiquement, avoir un projet, avoir une vision de leur pays. Qu'est-ce qu'on fait avant? Il n'existe pas.
En fait, les opportunités politiques et historiques ont disparu à la fin des années 80 avec la fin de la guerre froide. Je ne pense pas qu'il faille parler de manipulation. Je crois que c'était simplement des politiques qui se sont positionnés dans un monde bipolaire. Il y avait ceux qui, évidemment, en Afrique, à l'époque, on parlait de l'Afrique rouge et de l'Afrique verte. Il y avait l'Afrique progressiste et l'Afrique était plutôt dévolue au camp capitaliste occidental.
C'était
des opportunités historiques.
Mais de la Cama comme Savimbi était plutôt finalement instrumentalisés par l'un des blocs, puisqu'ils n'étaient véritablement des leaders.
Ils n'étaient pas plus instrumentalisés que le Frelimo.
C'est l'addition de deux choses, effectivement. C'est un instrument au service d'une idéologie, de cette confrontation
Est-Ouest,
et puis aussi un ego personnel.
Bien sûr.
Parce que sinon, il n'y aurait pas cette volonté d'occuper le terrain et de mener cette guérilla.
Pense que ça tient plus de l'opportunisme politique que d'idéologie de la réflexion. Sinon, comment comprendre une contradiction qui est indépassable? On lutte pour libérer son peuple et en même temps, on soutient le régime de l'apartheid qui maintenait un propre peuple dans une colonisation pire et indigne. Ça, c'est une question qu'ils n'ont jamais réglée. Ces leaders.
Les contradictions objectives, comme disaient les marxistes.
Oui.
C'est la fin de cette émission. Merci Ousmane Diaye, Francis Laloupo et à vous Hichem Benaïch. À préciser, à la une de votre dernière publication New African, le magazine de l'Afrique, eh bien à la une, le G7 5 Sahel, cette force donc supposée lutter contre le terrorisme qui réunit 5 pays du Sahel. Grand merci également aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Cette édition est à retrouver sur les sites de RFI et de TV5 Monde. Merci à vous de votre fidélité à cette émission et rendez-vous à la semaine prochaine.